la définition aussi en petite définition de avoir un maximum d'informations sur cette espèce de nébuleuse d'outils. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que même dans les médias, il y a des confusions, des amalgames. Et ce soir, on voulait prendre du temps pour voir les quatre psys, hein, psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, voir un petit peu de différence, les formations, les obédiences, un petit peu d'histoire aussi. Et puis, ce qu'on voudrait ce soir, c'est qu'il y ait du débat, un échange avec vous. Et également sur les dernières conférences. C'est-à-dire, s'il y a des choses, s'il y a des points sur lesquels vous aimeriez revenir sur les dernières conférences, eh ben, ça va être le moment. Non, sachant que c'est la dernière, et qu'avec plaisir, on reviendra l'année prochaine. J'ai l'impression que François n'était pas forcément sûr. Donc, voilà, pour conclure, on voulait vous donner aussi la parole. Moi, ce soir, j'ai eu la tâche d'ouvrir sur les psychologues. Alors, c'est notre profession. On va essayer de revenir sur la formation, le statut, parce que c'est une profession qui existe depuis pas si longtemps que ça, pourtant qui existe, qui n'a pas été légiférée depuis si longtemps que ça, mais qui fait partie, qui est aussi liée à l'histoire de l'humanité. Alors précisément, on est psychologue aujourd'hui en France depuis 1985. Il faut être titulaire d'un bac plus 5. Alors, enseignement à DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, et depuis la réforme européenne, il faut être titulaire d'un master 2 professionnel. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une licence, 3 ans, un master 1, puis après un master 2. Alors 85, c'est quand même assez récent. Avant, il y avait un petit flou. Ça a été, précisément, la loi a été votée le 25 juillet 1985. Comme ça va. Alors, en reprenant les textes de loi, je me suis aperçu qu'il s'agissait surtout de fonder une déontologie du psychologue. C'est ça dont il s'agit. En fait, ce qui regroupe et unifie tous les psychologues, et qu'ils soient psychologues cliniciens, psychologues sociaux, psychologues cognitifs, c'est la déontologie. Alors, ça dit quoi ? La mission fondamentale du psychologue est de reconnaître et de respecter la personne dans sa dimension psychique. Ça, c'est dans le texte de loi. Son activité porte sur la composante psychique de l'individu, considérée isolément ou collectivement. Donc on s'aperçoit que là, il s'agit aussi bien des psychologues cliniciens que des psychologues sociaux et tous les autres. On reviendra un petit peu là. Il y a un deuxième article qui dit que le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions qui distinguent et fait distinguer, comme les conseils, l'enseignement, de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels. Alors, c'est vrai qu'en recherchant un petit peu aussi, je me suis aperçu qu'il y avait une race de psychologues qui s'appelle les psychologues scolaires, qui sont des psychologues un petit peu à part, hein, c'est-à-dire que ce sont à la base souvent des enseignants qui après valident leur cursus moyennant, je crois, c'est 2 années d'études. 3 années d'études, merci beaucoup. Alors sur l'histoire de la psychologie, en faisant des petites recherches, je me suis aperçu que le terme de psychologie comme science de l'âme a fait son apparition en 1588. Dans la langue française. Alors il s'agissait, à cette époque-là, plus d'une dimension philosophique. C'est un courant philosophique où on commence à sonder les profondeurs de l'âme. Un des moments importants en France qui va faire naître la psychologie, mais c'est la psychologie à la française, c'est au cours du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, ça va être la naissance de la psychologie scientifique. Un des personnages assez important de cette époque, c'est Théodule Rigaud. C'est un philosophe qui n'aura de cesse de vouloir libérer la psychologie du carcan de la philosophie pour en faire une discipline scientifique autonome. Alors la psychologie qu'il propose, c'est une psychologie scientifique, c'est-à-dire expérimentale, comparée et objective. On est encore loin de la psychologie clinique. Donc on est à la fin du 19e siècle. Il y a une espèce d'amalgame et un flou autour des psychologies scientifiques et expérimentales, de laboratoire, qui est psychologie, qui est plus philosophique et spiritualiste. L'un des personnages aussi importants à cette époque-là, c'est Henri Bergson, qui avec sa thèse « Essai sur les limites de la conscience » sera considéré comme une œuvre de psychologie à part entière. Bon, à cette époque-là, il y a quand même pas mal de conflits hein, sur la naissance d'un tel métier, surtout entre les médecins et les philosophes. Pour Théodule Rigaud, lui, il va essayer de penser le psychologue comme un philosophe-médecin. Il va avoir énormément d'élèves, il va se mettre d'énormément d'élèves, pour après lui, qu'on dise quelque chose ou pas. Pierre Janet, qui est peut-être l'un des pères de la psychologie française, Henri Piron, qui a écrit un manuel de psychologie, un dictionnaire assez remarquable, Henri Wallon, qui est un des pères de la psychologie du développement, c'est-à-dire voilà, le développement de l'enfant, et Charles Blondel, qui est aussi, pour le coup, un médecin philosophe. Enfin, il a été philosophe, puis médecin après. Alors, voilà, ça, on est là au début du XXe siècle, et puis il va y avoir un élément important qui va être l'introduction de la psychanalyse en France, dans les années 20, avec les premières traductions de l'œuvre de Freud. Là, ça va encore rajouter des tensions. Ce fameux Charles Blondel, d'ailleurs, il sera peut-être l'un des premiers à écrire un pamphlet contre la psychanalyse, qui portera d'ailleurs le titre « La psychanalyse », bien avant Onfray. Et c'est... Alors, il est introuvable aujourd'hui, hein, mais j'ai pu en lire des extraits sur Internet. C'est quand même assez remarquable. Donc ça, les années 20, c'est un moment de tension considérable. Il y a les partisans de la psychanalyse et ceux qui sont contre. Et il va y avoir une espèce de rencontre impossible entre la psychologie et la psychanalyse. Donc, dans les années 30, c'est l'essor de cette école, hein, l'école de la psychologie scientifique, qui sont alors considérés comme des experts, des arbitres de la question sociale. Et ils vont essayer de militer pour un monde plus juste. C'est le début de la psychométrie, c'est-à-dire tous les tests. L'héritage aujourd'hui, c'est les QI, c'est le Binet-Simon. Enfin, c'est que des tests qui permettent de pouvoir quantifier, objectiver les performances, les compétences du sujet d'un point de vue psychique.
Et cognitif.
Et ça va être le début aussi. Hein, ces outils-là, ils vont avoir une fonction sociale assez importante qui sera celle de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est dans ce cadre-là qu'elles vont avoir les premières applications sociales. Hein. C'est une espèce de combat laïque de ces premiers psychologues. Parce que jusque-là, l'accession à ces postes-là, c'était dans la lignée du sang. La bourgeoisie engendre la bourgeoisie. À partir de ce moment-là, de quelle classe sociale on vient, on avait la possibilité d'accéder à des fonctions qu'on ne pouvait pas avoir. Donc, en même temps, hein, je vous ai parlé de Pierre Janet, qui fait partie de cette école de la psychologie scientifique, était philosophe et médecin. Il va travailler avec Jean-Martin Charcot, qui est un des pères de la psychiatrie contemporaine, on peut dire ça, à la Salpêtrière, à Paris. Et ça va être avec lui, Pierre Janet, le début d'une psychologie appliquée à la clinique. C'est-à-dire là, il va rencontrer des malades, essayer d'en comprendre quelque chose, essayer peut-être aussi de fonder des méthodes thérapeutiques. Voilà, avec Pierre Janet, je pense qu'on a les premiers jalons d'une psychologie clinique, en tout cas d'une psychologie appliquée à la clinique, non plus une psychologie de laboratoire. À cette époque-là aussi, Daniel Lagache, qui est, je crois, pour notre profession, un des grands-pères. Il était philosophe, il a été après médecin. Enfin, à cette époque, ça se faisait beaucoup. Hein. Et puis, on était à la fois médecin, philosophe, etc., etc. Donc, il a commencé comme philosophe, après, il est devenu médecin psychiatre, puis psychanalyste. Il a été le premier à introduire à l'université l'enseignement de la psychanalyse. Et ça va être en 1937. Je l'avais dit dans la première conférence. À ce moment-là, il est nommé maître de conférence en psychologie à l'université de Strasbourg. Alors pour vous dire à quel point ce personnage il était important, parce que 10 ans plus tard, en 1947, il est nommé à la Sorbonne. Il va avoir, en 1947, enfin, un moment assez précieux pour nous, qui va être la création d'une licence de psychologie. Bon là, c'était enseigné à la faculté, mais il n'y avait pas forcément de diplôme. Il faut attendre 1947 pour qu'il y ait une reconnaissance d'un enseignement de psychologie et validé au niveau des diplômes. À partir de ce moment-là, on peut dire que la psychologie n'est plus une branche de la philosophie. Bon, comme j'ai eu cette licence restauration, sans peu rattacher et ajouter une psychologie philosophique, avec un enseignement en psychopathologie également, celui de la psychologie clinique et de la psychologie expérimentale. Alors, c'est l'enseignement en psychologie, finalement, va regrouper hein, la psychologie dans ses différentes formes. Donc, c'est ce qu'on a. Il va y avoir à l'époque différents certificats, le certificat de psychophysiologie, un certificat de psychologie sociale, un certificat de psychologie de l'enfant et de l'adolescent, ce qui nous montre bien aussi l'éclatement à l'époque de l'enseignement psychologique qui, pour le coup, hein, perdure un petit peu dans notre enseignement. Donc au début, hein, enfin, l'enseignement de psychologie va faire partie enfin, de la faculté de l'être. Hein, ça va être, il va y avoir la faculté de psy, enfin l'enseignement de psychologie va dépendre de la faculté de l'être, puis après va rentrer dans les sciences humaines. Alors par rapport au thème que s'était donné un petit peu cette année sur les limites, moi je m'étais dit que la psychologie clinique, la nôtre, celle dont on vous a parlé hein, ces cinq dernières conférences, c'était un petit peu un concept de limite. Il y a énormément de psychologues qui font de la psychologie expérimentale, de la psychologie de laboratoire. Dans les sciences humaines aussi, on a des sociologues qui vont quand même sur le terrain, mais sont essentiellement dans la recherche, les anthropologues. Alors que le psychologue clinicien, lui, bah, il est dans le soin. C'est dans ce sens-là que la psychologie clinique est un concept limite. Il va falloir attendre les années 60 pour que, pour la première fois, des psychologues sont recrutés en tant que tels dans des structures médico-sociales et sans nécessairement de qualification requise et de formation clinique. Il va falloir attendre, comme je vous l'ai dit, 1985 pour valider, selon une formation bien précise, parce que l'expérience de stage, l'expérience de la clinique, l'expérience sur le terrain est quand même importante. Alors maintenant, peut-être quelques mots sur la spécificité de la formation du psychologue clinicien. Alors déjà, avant de dire ça, moi je me souviens quand je suis arrivé à la faculté de Dijon, parce que j'ai commencé là-bas, en deuil, j'étais surpris de voir à quel point il pouvait exister la pluralité de la psychologie. Moi j'étais arrivé avec peut-être l'idée que le psychologue, c'est le psychologue à qui on parle, qu'on peut trouver dans un cabinet ou à l'hôpital, et en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, à la faculté, on retrouve les neurosciences cognitives, la psychologie sociale. Donc, la psychologie sociale, c'est essayer de comprendre les processus psychiques dans sa globalité, en groupe, même au niveau de la société, les mouvements sociaux. La psychologie différentielle, elle qui a la tâche de faire passer des tests, d'essayer d'objectiver les compétences du sujet, hein, que ce soit psychiquement et cognitivement, la psychologie du développement qui s'attache à tenter de décrire les stades de développement de l'enfant. Henri Wallon a beaucoup participé à cette discipline. La psychologie. Et Piaget. Piaget n'est pas français, mais Piaget. La psychologie cognitive qui, elle, s'intéresse à comment ça fonctionne dans les différentes aires du cerveau. Comment ça fonctionne, comment ça communique, à quelle aire du cerveau correspondent les compétences verbales, les compétences affectives, les compétences émotionnelles. La psychopathologie qui, elle, s'intéresse plutôt du côté de la maladie mentale, et puis donc nous, la psychologie clinique. Alors la spécificité de la formation du psychologue clinicien, elle est, j'invite mes collègues à compléter ce que je dis, mais premièrement, il y a une césaire, dans la limite, hein, où on peut apprendre un apprentissage technique. Voilà, on apprend beaucoup à la faculté, par exemple, l'usage des tests, que ce soit le test de Rorschach, celui que vous connaissez tous, avec les tâches d'encre. Il y a d'autres tests. Et puis ça s'appuie aussi la formation du psychologue sur un savoir qu'on appelle théorico-clinique, donc un enseignement théorique, mais qui ne peut pas se comprendre sans une application clinique, c'est-à-dire sans la rencontre avec le patient. Et ça, cette dimension-là, elle nous est léguée par la psychanalyse. Je pense que l'essor de la psychologie clinique, elle doit beaucoup aussi à la psychanalyse. la psychanalyse qui fait l'hypothèse de ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire que dans la relation à l'autre, il y a forcément quelque chose de l'histoire du patient qui va se réactualiser. Et c'est à nous d'en saisir quelque chose. Donc c'est ça l'idée hein, de la psychologie clinique, c'est-à-dire que ce corpus de connaissances est indissociablement lié à, une méthode, à la méthode de sa découverte, c'est-à-dire à un dispositif thérapeutique. Comme ça, nous, quelque part, on arrive à accéder aux formations de l'inconscient. Et puis, l'une des spécificités lyonnaises, mais aussi parisiennes, c'est-à-dire que nos enseignants sont des enseignants analystes. Ils sont professeurs, psychologues cliniciens aussi, certains psychiatres, ils sont aussi psychanalystes. Donc, vous voyez à quel point, nous, ça peut nous orienter dans notre formation. On se dit souvent qu'on les prie comme des cobayes aussi, comme des apprentis psychanalystes. Après, tout le monde ne l'assume pas, ne va pas jusqu'au bout hein, de ce jeu-là et devenir psychanalyste. Donc, l'un des enjeux essentiels aussi de la formation, c'est toujours la référence à un tiers hein, par rapport au stage clinique, à l'expérience de terrain. Ça, on a énormément de supervision voilà, par des anciens, on pourrait dire. Des groupes d'élaboration pour parler de ce qu'on a ressenti, de ce que ça nous a fait vivre, de comment comprendre ce qui se passe dans la relation à l'autre. Donc, l'une des caractéristiques quand même, de la formation en psychologie clinique, c'est l'expérience de stage. Ce qui différencie peut-être aussi la psychologie clinique de la médecine, hein, c'est que il y a un concours hein, qui se situe plutôt vers la fin du cursus. On l'a tous connu, voilà, on a fait, certains ont fait le deuil après la première année de licence à maîtrise, d'autres, après la réforme européenne, ils ont fait une licence, un master, hein. Après il faut accéder au master 2. Et c'est à ce niveau-là, finalement, que se fait la sélection. Alors c'est très tardif, qu'est-ce que deviennent tous les autres? Ça c'est une grande question qui est mise au travail à l'université, alors qu'en médecine, le concours il se situe à la première année. On échoue la première, la deuxième. Au bout de la troisième, on se dit, bon, peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. En psychologie clinique, ou en psychologie tout court, voilà, on peut passer une première année de maîtrise, une deuxième, une troisième. Qu'est-ce qu'on fait après voilà, quand on n'arrive pas à accéder à ce master 2. Donc, l'idée quand même de la psychologie clinique, enfin, moi, comment je pourrais la résumer, c'est essayer de rencontrer l'autre là où il est, là où il en est, et puis, comme un de nos professeurs nous dit souvent, c'est d'être, enfin c'est René Roussillon, nous dit qu'il faut être le miroir du négatif de l'autre. C'est-à-dire essayer de renvoyer à l'autre ce qu'il nous dit, mais qu'il ne sait pas qu'il dit. Pour essayer de le permettre à ce patient de se dégager de ses symptômes. Voilà, j'ai dit à peu près l'essentiel. Je vais passer la parole maintenant à Yannick qui va vous parler de la psychiatrie.
Voilà, ça devrait aller. Alors, la psychiatrie. Donc, je serai quand même assez synthétique par rapport à toute la complexité que peut recouvrir ce mouvement, mais c'est dans l'idée de vous donner une petite idée de d'où ça part, comment ça arrive jusqu'à aujourd'hui, et ce qui existe actuellement, et dans quel domaine sont les psychiatres, et où est-ce qu'ils interviennent et comment. Alors, on peut peut-être dire que depuis très longtemps, la formation des psychiatres, en tout cas comment l'histoire a amené les psychiatres à ce qu'ils sont aujourd'hui, est liée à la médecine d'une part, très conjointement au départ entre la question du corps et la question de l'âme puis de la psyché, mais qui est liée aussi beaucoup à toute l'évolution des institutions. Depuis 6 siècles avant Jésus-Christ, donc chez les Grecs, avec le serment d'Hippocrate, dont il reste encore des traces aujourd'hui, et qui a subi au cours de l'évolution diverses transformations, notamment au Moyen-Âge, avec tous les mouvements d'errance et les gestions de population qui étaient en en difficulté. Alors c'était au départ très, très divers et varié. Il n'y avait pas forcément, la psychiatrie n'était pas encore dégagée. Ça prenait en compte toutes les personnes qui étaient en difficulté, quelles que soient les pathologies, et notamment des pathologies dont on ne connaissait pas trop l'étiologie. Au XVIe siècle, il y a eu le mouvement de grand enfermement et la psychiatrie a commencé à se dessiner en s'intéressant plus précisément aux patients souffrant psychiquement. Dans les années 1800, il y a le mouvement aliéniste, donc là, encore des divergences et des différenciations. Du côté, plus du sommeil, de l'étude du cerveau, de l'autre, plus du côté de la psyché, avec, dans les années 50, 1950, encore beaucoup de florissance du côté des disciplines et des pratiques qui ont pu émerger. Notamment les techniques de soins qui se sont diversifiées et un mouvement qui est allé de l'enfermement vers une ouverture vers le côté social et une diversité des endroits et des lieux de pratique de la psychiatrie et d'intervention des psychiatres. Alors, pour la formation actuelle des psychiatres, donc ce sont des médecins avant tout, donc avec 50 pratiques générales, à la fois du côté universitaire et côté stage, de pratiques dans divers milieux médicaux. Avec donc cette spécificité après de 3 ans de pratique spécialisée dans le domaine de la psychiatrie, des hôpitaux psychiatriques. Au niveau des lieux de pratique, donc il y a les institutions, les hôpitaux psychiatriques en propre, qui sont organisés sous forme de secteurs, de sectorisation géographique. Donc les psychiatres interviennent en fonction du lieu et suivent les patients en fonction du lieu où ils se trouvent, soit de ce qu'on appelle l'intra-hospitalier, donc à l'intérieur entre guillemets des bastions hospitaliers, avec des prises en charge plus lourdes, sur des hospitalisations à temps plein, et puis le milieu extra-hospitalier avec des structures qui prennent en charge les patients sur la ville. Les psychiatres interviennent aussi en institutions diverses et variées, des foyers, ainsi qu'en libéral. Donc il y a une diversité des lieux d'intervention et une spécification aussi entre les psychiatries du côté de l'adulte, les pédopsychiatres qui prennent en charge les enfants, et il va y avoir tout un panel de prise en charge avec les adolescents, notamment des structures qui se sont spécialisées dans la prise en charge des adolescents. Il y a une chose importante qui qualifie les psychiatres aussi, c'est leur responsabilité. Ils ont des responsabilités multiples, à la fois une responsabilité liée au niveau médico-légal, donc avec des responsabilités de la prise en charge des patients tout au long de leur suivi, mais qui peut aller jusqu'à aussi des expertises près des tribunaux. Il y a une responsabilité aussi dans les institutions, donc qui est restée, où en quasi-totalité, les psychiatres qui sont chefs, alors responsables d'unités ou divers et variés, ou chefs de service, et qui organisent le soin. Voilà, ils ont donc la responsabilité, la conduite du soin de A à Z avec la répartition des soins et des diverses prescriptions. Un dernier point important, c'est leur possibilité de proposer l'hospitalisation à leurs patients. Donc il y a 3 formes de proposition d'hospitalisation. Des hospitalisations libres qui peuvent être proposées alors, soit par des médecins généralistes ou autres, mais des psychiatres aussi. Donc les patients là sont libres de choisir s'ils veulent être hospitalisés ou non. Il y a l'hospitalisation d'office qui remonte à anciennement dans l'histoire aux lettres de cachet qui dépendent directement de la législation et qui dans des cas où les patients seraient dangereux soit pour eux, soit pour les autres, valide le fait que ces patients doivent être hospitalisés et pris en charge au niveau psychiatrique. Ils relèvent de ce soin-là par nécessité. Enfin, la dernière des possibilités, c'est les hospitalisations à la demande d'un tiers. Alors, c'est un parcours qui est beaucoup utilisé parce que il permet une souplesse. Alors, il y a normalement un médecin adresseur, donc ça peut être un médecin généraliste, mais ça peut être aussi SOS médecins. Donc, qui sont les référents premiers, qui proposent l'hospitalisation de ces patients à la demande d'une institution ou d'un service parce qu'il y a un cas compliqué et que les patients nécessiteraient cette hospitalisation. À ce moment-là, à partir de cette adresse, le patient rencontre un médecin spécialisé, un psychiatre, qui entérine, donc, qui valide ou qui invalide le fait qu'effectivement il relève de soins qui seraient importants pour lui, nécessaires. Et il y a aussi l'intervention donc d'un tiers qui peut être la famille ou le médecin généraliste ou quelqu'un qui ne soit pas du milieu médical. Donc ce système permet une hospitalisation du patient quand il s'y refuse, mais que son état nécessite qu'il doive être hospitalisé. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, l'importance de la médication, évidemment. Donc, les psychiatres, que ce soit en libéral ou en milieu hospitalier, sont prescripteurs pour les patients, ce que ne sont pas les psychologues. Et c'est aussi ce qui distingue nos pratiques et qui permet de les articuler entre elles, psychiatres, psychologues, mais aussi tout le reste des intervenants, assistantes sociales, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc., infirmiers, évidemment. Voilà, donc, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a des questions supplémentaires après, on pourra en reparler. Donc, je passe la parole maintenant à Jean-Baptiste, sur la question de psychanalyse.
Voilà, donc, on a beaucoup fait référence aux théories psychodynamiques et à la psychanalyse dans ces différentes interventions. Comme vous l'a reprécisé Mathieu Garraud, c'est aussi eu égard au fait qu'effectivement on a été formé à Lyon 2 et que la plupart de nos enseignements sont quand même référés à ce champ de pensée. Alors, j'aurais envie de dire, juste après ces deux présentations, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, on parle d'intervention, de formation universitaire. L'idée quand même un petit peu ce soir, c'est de pouvoir aussi faire le point ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire d'aller voir un psy, ou en tout cas à quel psy on s'adresse, quoi. À quel psy se vouer. Et du coup, quand les personnes sont en difficulté, elles n'ont pas forcément de perception, de savoir effectivement vers quel psy se tourner. Comme ça. Jusqu'à présent, tout va bien, dans le sens où il s'agit de formations qui sont reconnues, au niveau de l'État, qui sont protégées par des décrets d'application, des lois qui permettent l'usage d'un titre, et que, pour ce qui va suivre, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. C'est-à-dire pour la psychanalyse et pour la psychothérapie, les questions se posent à ce moment-là. Alors, que ce soit protégé, ça ne veut pas dire que la pratique est bonne pour autant. Hein. On peut tout à fait aller à l'université et puis même avoir des diplômes et puis au final, on va comprendre. Mais c'est, voilà, en tout cas, c'est important de le dire qu'il y a une question du côté de quelque chose d'officiel comme ça, qui doit être entendu et que seuls existent les titres de psychologue et de psychiatre dans tout ce dont on va vous parler. Même si un récent décret, enfin, on vous en reposera après sur les psychothérapeutes. Mais globalement, le titre de psychanalyste, tout d'abord, vous dire que le titre de psychanalyste, ça n'existe pas. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de diplôme, personne ne peut accrocher dans son cabinet, sauf s'il le fait sur son ordinateur et qu'il l'imprime. Mais sinon, il ne peut pas mettre de titre de psychanalyste ou de diplôme, ça n'existe pas. Je crois que ça, c'est important. C'est important parce que c'est vraiment la particularité de cette pratique. Une pratique qui remonte à Freud, hein, comme, comme vous vous en doutez, pratique qui n'a jamais été légiférée pour différentes raisons. Globalement, on peut dire que Freud, au début, il invente l'analyse sans lui-même être analysé, il expérimente sur quelques-uns, des collègues, des personnes qui viennent le voir, sa fille, enfin, globalement, voilà, il fait des tests comme ça, et les gens ressortent de chez lui, analysés en quelques mois, pour les débuts. Après, par la suite, ça va être quelques années, enfin, il va essayer quand même d'approfondir les choses. Mais globalement, les personnes vont faire une analyse chez lui, et puis après, sont analystes, dans les temps premiers. À l'heure actuelle, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Il ne suffit pas d'aller voir un analyste, de lui parler pendant 6 mois et de se dire analyste. Globalement, pour résumer, on pourrait dire que le champ des analystes, la pluralité des pratiques analytiques, qui est quand même assez importante, pourrait se regarder sous la lecture d'une forme d'orthodoxie et une forme d'hétérodoxie. Une orthodoxie qui correspondrait à celle de l'IPA, donc en français ça fait API, c'est dans l'autre sens, c'est l'Association Psychanalytique Internationale. L'Association Psychanalytique Internationale, elle remonte à 1910, fondée donc sous l'égide de Freud, avec les premiers psychanalystes. Elle a été fondée dans le but de préserver, de protéger de la question de la psychanalyse dite sauvage, ou profane. Je vous renvoie à un ouvrage de Freud par rapport à ça, sur la question de l'analyse profane. Une question s'est rapidement posée, c'est qu'au début c'est une pratique réservée à des médecins, uniquement, et puis rapidement il y en a d'autres qui s'y sont essayés. Et entre autres, par exemple la fille de Freud, Anna, non-médecin, va être reconnue comme analyste, sans avoir formation en psychopathologie issue des universités de médecine. Mélanie Klein, aussi. Merci. Donc voilà, elles sont quand même quelques-unes, comme ça, moi je trouve que les femmes, c'est pas sympa de leur retirer le phallus, comme ça, mais il y a sans doute bien des hommes qui ont effectivement correspondent, enfin maintenant, de toute manière, on en connaît un paquet. Globalement, à la base, c'était que des médecins. Rapidement, j'irai le tout venant, c'est un petit peu poser la question de savoir comment pouvoir pratiquer par rapport à ça, sachant qu'il y avait quand même des lois qui tentaient de protéger les usagers par rapport à l'exercice illégal de la médecine. Et que ça, c'était quand même relativement contrôlé. De fait, l'IPA, fondée en 1910, comme c'est à Nuremberg, a pour destin de protéger un petit peu la pratique analytique. À l'heure actuelle, pour être membre de l'IPA, il faut être membre d'une société reconnue par l'IPA. En France, elles sont limitées, elles sont en nombre de 2-3 avec une société de recherche. Mais globalement, les deux sociétés, donc, on compte la Société Psychanalytique de Paris et l'Association Psychanalytique de France. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'APF. Voilà, donc globalement, il y a ces deux sociétés-là qui sont reconnues par l'Association internationale qui a pour but de préserver la psychanalyse. Ça correspond à des critères. Ça correspond à des critères de formation qui ont toujours été, je dirais, à l'origine de scissions, de conflits. Voilà. À la base, il y avait en France l'IPA, il y avait l'ASPP, voilà, la Société psychanalytique de Paris. Ils s'étaient tous formés à partir de ça. Lacan aussi, lui qui a été un des premiers à générer de la dissidence comme ça, et ce qui a apporté une grande richesse, je pense, à la psychanalyse en France. Il était, Lacan, membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris. Donc, globalement, c'est à l'heure actuelle, pour être membre d'une société analytique comme celle-ci, il faut avoir suivi une analyse, une cure, donc une analyse par un membre ou de la SPP ou de la PF, pendant un nombre d'années minimum dont il est exceptionnellement inférieur à 3 ans, globalement, parce que la moyenne tourne autour de, on va dire, 6 ans, à peu près 5-6 ans pour une moyenne. Donc voilà, au terme de cette analyse, le sujet peut être amené à postuler, celui-là une société. Une fois qu'il y est admis, donc il y a des différents critères de sélection, je vous passe hein, tout le, ça ne vous intéresse pas forcément, mais c'est juste pour avoir une représentation de à qui on s'adresse pour avoir une analyse. Une fois que le sujet y est admis, il va suivre une formation qui comprend deux cures sous supervision, entendez soigner ou analyser deux personnes à raison de, comme pour sa cure, un minimum de 3 séances hebdomadaires, voilà, pendant un minimum de 3 ans, avec une supervision hebdomadaire, ça veut dire en référer à quelqu'un et en parler, voilà, une heure par semaine en individuel et un autre temps par semaine en groupe. Donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd, qui se mène pendant un minimum de 4 ans, cette formation, et une moyenne de 7 années. Donc globalement, cette formation comprend donc une analyse personnelle 3 séances par semaine pendant plusieurs années, minimum de deux cures sous supervision, des séminaires théoriques, voilà, les contrôles, donc les supervisions, et la présentation d'un écrit concluant, globalement, enfin en fonction des écoles, mais on retrouve à peu près, quelles que soient les écoles, c'est le même type de sélection. Il y a une validation orale, une validation écrite sur un mémoire, puis voilà une validation continue, hein, entendu que le processus se déroule en moyenne sur au minimum de 7 années. Donc il faut imaginer que globalement, les personnes qui pratiquent comme analystes à la Société psychanalytique de Paris ou à l'APF, la Société psychanalytique de France, sont des personnes qui sont, pour la très grande majorité, soit psychologues, soit psychiatres, et qui, après leurs études, ont décidé de s'engager dans ce processus-là et vont rempiler, pour ainsi dire, hein, sur à peu près 7 ans un minimum de 7 ans de pratique, parce que globalement, ça s'arrête jamais. Donc voilà, on peut dire que il n'est jamais exclu qu'on allait refaire une deuxième tranche. La question de la supervision, je crois qu'elle se pose tout au long de notre vie. Enfin, c'est le fait d'aller causer à d'autres un petit peu des difficultés qu'on peut rencontrer. Et la formation continue du point de vue intellectuel ou clinique ou pratique, comme ça, elle perdure jusqu'à la fin. Et donc globalement, à côté de ce mouvement-là, donc, qui serait plutôt dire orthodoxe, il y a toute une scission, alors je ne vais pas partir trop loin parce que je vois que le temps passe, mais une scission qui a été générée en 1953 du fait de pratiques qui étaient contestées à l'époque, celle de Lacan. Alors c'est pas l'unique raison, mais c'en est une assez centrale. Il a décidé de vouloir pratiquer sur des séances relativement courtes. Voilà. Entendu que là, quand je vous parlais de psychanalyse, enfin de faire une analyse, ça veut dire un minimum de 3 séances hebdomadaires, d'une moyenne souvent de 45 minutes. Hein. La norme française, c'est à peu près ça. Voilà. En Angleterre, il faut savoir qu'en France, on est le seul pays qui autorise à reconnaître une cure analytique avec uniquement 3 séances par semaine. Voilà. Dans la plupart des autres pays, en Angleterre, en Amérique du Sud, enfin, aux États-Unis aussi, c'est 4 séances par semaine. Voilà, 4 à 5 séances par semaine. Minimum. En France, c'est voilà, le minimum accepté, c'est 3 séances par semaine. Donc voilà, et Lacan a vu diverger par rapport à ça, pas tant en termes de fréquence, mais en termes de durée des séances. Voilà, avec une histoire de scansion, une histoire de séances courtes, qui renvoie à des questions théoriques, alors là je ne vais pas aborder parce qu'on peut en reposer après coup si vous voulez, mais qui renvoie à une théorisation très particulière, assez précise, je dirais, de la métapsychologie du fonctionnement psychique, hein, un point de vue où on intervient sur le processus en cours, comme ça, et voilà, ce qui justifiait le fait de séances courtes. Il a été, entre guillemets, un peu rappelé à l'ordre par rapport à ça, il n'a pas accepté, du coup, il est sorti de la SPP et donc de l'Association Psychanalytique Internationale. L'incidence de ça, c'est que ça a créé différentes sociétés. On retrouve à l'heure actuelle, donc l'APF est issue hein, d'un premier mouvement de scission lacanien. On retrouve une autre société importante en France qui est le 4e groupe. Il est dit le 4e groupe, c'est l'organisation psychanalytique de langue française, organisation psychanalytique de langue française, qui reste un groupe important en France, voilà, avec là des pratiques qui restent relativement orthodoxes, et puis tout le champ lacanien, avec l'école la plus connue, qui est l'école de la cause freudienne, Voilà, vous connaissez peut-être Miller, enfin Jacques-Alain Miller, et puis Miller, pardon, et puis je crois qu'il y a son frère qui cause sur des plateaux télé, enfin voilà. Donc et ces personnes-là sont issues de, je dirais, du schmackanien.
Son frère.
Et globalement, la particularité des sociétés lacaniennes est que du fait de la pratique de Lacan, il faisait des séminaires à l'ENS ou autre. Au début à Sainte-Anne, et puis après il a été un petit peu poussé quelques rues plus bas. Et du coup, il s'est retrouvé à l'ENS, et du coup, il a attiré aussi des philosophes. Voilà, donc il accepte beaucoup plus des personnes qui sont issues d'autres, d'autres champs, des sociologues, des anthropologues, des philosophes. Alors que, au niveau des sociétés reconnues par l'IPA, globalement, si la personne n'est pas psychologue ou psychiatre, elle se doit d'aller se former en psychopathologie. Ils estiment que c'est important. Voilà, donc. Il y a des stages à faire, il y a une formation en psychopathologie qui est à faire. C'est ce qui n'est pas le cas de toutes les autres sociétés. Donc globalement, il est beaucoup plus facile si on a une formation philosophique, une formation finalement, quelle qu'elle soit, on peut être artiste et puis vouloir devenir analyste. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça demande de se former, malgré tout. Et pas que de se former à l'analyse. Le risque étant, pour des personnes qui n'auraient pas de formation en psychopathologie, de prendre en cure des patients qui sont francs-fous, hein, pour le dire comme ça, ou qui sont au risque de décompenser sur des modes plutôt psychotiques. Et que, là, il y a des contre-indications de cure, en tout cas de cure classique, allongée, dispositif divan-fauteuil, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et dans le but aussi de protéger les gens, il est important de savoir où on va, et que l'analyse ne s'adresse pas à n'importe qui. Voilà. Si l'analyse n'a jamais été légiférée, s'il n'y a pas de titre, s'il n'y a pas de loi, de diplôme qui légifère ça, c'est pour la simple et bonne raison que le premier processus formateur, c'est la question de l'analyse personnelle. Et que l'analyse personnelle, elle ne peut pas être légiférée. Hein. Pendant longtemps, il y avait ce qu'on appelait l'analyse didactique. Didactique dans le sens de formatrice. Freud au début disait, on fait une analyse de quelques mois, ça permet de prendre conscience de l'existence de l'inconscient, voilà, on analyse quelques rêves, quelques fantasmes, et puis quelques actes manqués, alors je caricature involontairement, mais globalement, et on réalise effectivement sur son expérience propre que l'inconscient, tiens, il nous anime, il n'est pas, c'est pas qu'une question théorique. Alors pour ça, vous n'avez même pas besoin de faire une analyse, hein, vous lisez Psychopathe de la vie quotidienne, l'interprétation des rêves, ça suffit, puis là, vous réalisez que ça vous fera penser à vous, et puis voilà, comme n'importe qui lit ce bouquin, et puis on se dit, tiens, moi aussi, je rêve, moi aussi, j'ai fait des actes manqués. Et puis, on se dit, peut-être que j'ai un inconscient. Et après coup, au fil des années, et assez tardivement, il faut le dire, hein, c'est quand même la fin du XXe siècle, où la question de l'analyse didactique a été considérée comme insuffisante. Ça faisait des décennies qu'on en avait pris conscience, mais ça n'avait pas changé dans les façons de faire, voilà. Et là, depuis peut-être 20-30 ans, globalement, il n'y a plus de principe d'analyse didactique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut faire une analyse. Et que globalement, c'est une analyse pour apprendre l'inconscient. C'est vraiment une analyse pour, mettre au travail quelque chose de soi, à soi, dans le but de percevoir ses propres processus psychiques. Voilà. De pouvoir aller mieux aussi, hein, de soigner les troubles éventuels qu'on a. Entendu, plus on a de troubles, plus on risque d'être limité dans notre pratique. Voilà. Et globalement, c'est d'affiner au plus près, au plus loin, et vraiment de façon la plus approfondie possible, la question de ses propres processus psychiques inconscients, voilà, pour après pouvoir proposer à l'autre de vivre cette expérience. Globalement, voilà pour ce qui est de la psychanalyse. Donc retenez qu'il y a, on va dire, deux grandes dimensions, tout le champ lacanien, où il y a des gens aussi tout à fait sérieux, hein, et formés, mais où il y a eu, dans certaines sous-écoles, parce que bon, ce que je ne vous ai pas tout décliné, on va refaire l'histoire de France, sinon je vous renvoie un bouquin de l'UNESCO là-dessus, en deux tomes, sur l'histoire de la psychanalyse en France. Mais globalement, il y a des gens tout à fait sérieux, et puis il y a aussi, le problème c'est qu'il y a des petites sociétés qui sont créées, les gens se créent par le chignon les uns les autres, disant, moi je crée ma société d'analyse, alors comme ça, on se met à deux, trois potes, on crée notre société. Et puis puis notre critère, ce serait qu'il suffirait de faire ci, ça. Et du coup, inventant leurs propres critères, on rejoint rapidement le risque de la psychothérapie un petit peu dite autoproclamée, dont vous vous parlez Antoine Finet et Claire du Rosard dans un instant. Voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va voir un analyste, on peut aussi lui demander, comme à tout praticien, de quelle pratique il parle, quel parcours il a effectué, et je crois qu'il ne faut, il faut pas hésiter hein, à pouvoir demander à ce que les personnes puissent dire quelque chose de là où elles parlent. Globalement, on peut imaginer que c'est une formation longue, qui dure, comme je vous le disais, un minimum de 7 ans, qui dure bien souvent toute la vie, voilà, et qui vient de surcroît. C'est-à-dire qu'elle vient après des études universitaires. Je crois que ça, c'est important de le préciser. Ça veut dire qu'on ne peut pas être analyste à 20 ans. Je passe la parole donc sur la question de la et des psychothérapies à Antoine Finet et Claire Rosa.
Je suis donc la psychologue, le psychiatre, le psychanalyste. Je suis presque à dire que même encore pour les psychanalystes, jusqu'ici tout va encore à peu près. Tiens, la question des psychothérapeutes. Et là, s'il a été question récemment de légiférer sur cette question-là, c'est bien parce que c'est extrêmement problématique. Voilà, on est deux pour traiter la question. Ça situe déjà le problème. Donc, au départ, il y a un certain nombre de pratiques, finalement. Si je reprends un petit peu les propos de mes collègues, on remonte des siècles en arrière où il existait une multitude de soins de type psychique, que ce soit avec des sorciers, des medicine man, des chamans, etc. Alors, dans notre culture occidentale, on utilisait sans doute, on parlait peut-être plutôt de prêtres, de médecins sacrés, peut-être plutôt là-dedans. Mais enfin, il y a tout un certain nombre de pratiques comme ça qui existent depuis des temps immémoriaux, et puis qui sont plus ou moins transmises au fil du temps. Il y a eu toute la question de l'hypnose, notamment, qui s'est jouée depuis longtemps, mais dont on a encore des traces beaucoup plus récentes, et qui existe toujours aujourd'hui sous certaines formes, évidemment. Tout ça pour dire que, avant que l'ordre des médecins vienne encadrer de façon légale la pratique de la médecine, il existait quand même depuis toujours une forme de pratique sociale avec de façon diverse et variée qui prenait en charge les personnes souffrantes, que ce soit sur le plan psychique ou somatique. La différence n'était pas forcément très pertinente fut un temps, et puis elle s'est précisée au fil du temps. Il est arrivé, donc un certain nombre de pratiques s'est toujours maintenu, mais enfin c'est vrai qu'avec la question de l'ordre des médecins et l'encadrement légal de cette pratique-là, on peut dire qu'il y a quand même un certain nombre de... il y a eu un certain recul de ces pratiques-là. Reste que dans les années 70, il y a eu un mouvement avec l'arrivée sur le vieux continent, puisque ça a plutôt une origine américaine, du concept de psychothérapie et donc de psychothérapeute qui va avec. Alors cette idée, ce concept est venu finalement recouvrir tout un champ de pratiques et créer une certaine indifférenciation en mettant un peu toutes sortes de pratiques à un même niveau. Et surtout, c'est venu donner une certaine légitimité sociale à tout un certain nombre de pratiques, parfois valables, parfois douteuses, avec donc voilà une espèce de concept fourre-tout qui est venu se situer au-dessus de tout ça et qui a été finalement un concept qui a plus créé de la confusion peut-être qu'autre chose et puis qui a Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont autorisés à devenir psychothérapeutes. Parce que jusqu'aux dernières dispositions légales, c'était absolument pas encadré. N'importe qui d'entre vous avait le droit d'ouvrir son cabinet de psychothérapie, de poser sa plaque en bas de chez lui, etc. Enfin, c'était absolument pas encadré, légiféré, il n'y avait aucune garantie de formation. Voilà. Et ce qui fait que. Et puis ça recouvrait des pratiques extrêmement variées, avec des choses très valables et puis des choses qui sont beaucoup plus discutables. Alors. Là où ça a posé problème et là où la question d'un encadrement légal est venue se poser, alors on a beaucoup entendu Bernard Accoyer notamment sur cette question-là, parce que c'est lui qui a été porteur de ce projet de loi d'un point de vue de la loi et puis du point de vue médiatique également. Ça a été toute la question des dérives sectaires en particulier. C'est-à-dire que sous couvert de pratiquer de la psychothérapie individuelle, groupale, etc., il y a tout un certain nombre de mouvements ou de gourous plus ou moins isolés comme ça qui se sont réfugiés derrière ce titre non officiel de psychothérapeute, non officiel mais complètement légitime socialement parlant. Et donc, à partir de cet état de fait, d'un certain nombre de plaintes qui ont été posées, enfin, je veux dire, pas très loin d'ici, on a la scientologie, par exemple. On a la scientologie, avec ces pratiques-là, elle se réclame d'une pratique de psychothérapie. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, voilà. Et donc, la question qui est venue se poser, c'est de créer un... au niveau de la loi, un référentiel qui permet de savoir la psychothérapie, ça recouvre quoi ? Qu'est-ce quand on va voir quelqu'un qui se réclame psychothérapeute, qu'est-ce qu'il autorise à parler, puis surtout quelle formation on peut avoir comme garantie derrière. C'est-à-dire, évidemment, ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est que même une formation universitaire ne garantit pas la compétence. Enfin, quand il y a même pas ça, il y a même pas un garde-fou par rapport à ces pratiques-là et donc aux personnes qui peuvent s'autoriser à les mettre en place. Donc, il y a eu un mouvement pour encadrer ça. Et donc, sur la question du cadre légal, je vais laisser la parole à Claire, qui va vous détailler ça de façon un petit peu plus concrète.
Alors, sur la question de l'usage du titre de psychothérapeute, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très conflictuel. Il y a eu un grand débat autour de ces questions-là, qui a opposé différentes écoles de pensée et différents praticiens, entre les psychanalystes et notamment les médecins, les psychiatres. Finalement, l'amendement Accoyer date de 2004 et on a fini de légiférer par un décret d'application qui date seulement de mai 2010, donc quand même pour dire que ça a pris du temps. Ce décret d'application, c'est surtout un décret qui est censé garantir une formation minimale pour pouvoir prétendre utiliser le site de psychothérapeute. Et donc, il y a la prétention qu'il y ait à peu près un niveau à peu près équivalent entre les différents psychothérapeutes. Alors après, c'est pas un texte qui décrète ce qui relève d'une psychothérapie et ce qui n'en relève pas. Hein, la pratique encore de la psychothérapie est très variée, et j'en parlerai tout à l'heure. Il y a différentes formes de psychothérapie. Le but de ce décret, c'est simplement de protéger les personnes qui peuvent recourir à la psychothérapie d'éventuelles dérives sectaires et d'être pris dans des mouvements de ce type. Alors, il y a donc une nécessité de formation, puisqu'on ce qu'on pourrait dire par rapport à ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure sur la question des psychanalystes, si autant on devient psychanalyste de surcroît, on peut dire que jusqu'à ce qu'on légifère, on était psychothérapeute de fait, quelque part. où on était, parce qu'on décrétait qu'on était. Alors aujourd'hui, si on veut pouvoir utiliser le titre de psychothérapeute, ben, il va falloir. Ça nécessite qu'on se forme de façon supplémentaire par rapport à une formation qu'on peut avoir initiale ou même si on n'a aucune formation initiale. Simplement pour vous préciser un petit peu les choses, cette formation qui est demandée, elle s'adresse donc à différents types de praticiens, donc il y a évidemment les psychiatres qui sont concernés, les médecins non psychiatres, les psychologues cliniciens, psychologues non cliniciens, les psychanalystes qui sont enregistrés de façon légale dans un annuaire, et les professionnels qui n'appartiennent à aucune de ces catégories. La formation elle est divisée avec des parties théoriques et des parties plus pratiques. Donc il y a quatre thèmes de formation théorique, donc dans le développement, le fonctionnement et le processus psychique, critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques, théorie se rapportant à la psychopathologie et les principales approches utilisées en psychothérapie. Donc ça c'est pour les domaines qui concernent la formation théorique et puis il y a un domaine plus pratique qui concerne les stages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les psychiatres bénéficient d'une dispense totale. Donc, si on est psychiatre, on est considéré comme psychothérapeute de fait. Alors, ce qu'on peut interroger, évidemment, on peut penser qu'il y a aussi des effets de lobbying
dans le. Il y a qu'il n'est pas encore appliqué le texte de loi. Hein. Il...
Oui.
Pour l'instant, on ne sait pas quel.
Ce que tu veux dire, c'est que ça risque de faire débat. Donc les psychiatres sont dispensés totalement de toute formation supplémentaire. C'est encore une fois pour ce qu'ils font, parce que si autant on peut penser qu'ils sont tout à fait formés aux différentes formes de pathologie psychiatrique, ça paraît évident. Pour autant, on peut quand même se demander s'ils ont une connaissance suffisante des principales approches utilisées en psychothérapie, hein, puisque c'est un des thèmes de formation. Bon. Les médecins non psychiatres, eux, doivent se former de façon supplémentaire, donc ils doivent bénéficier d'une formation théorique de 100 heures supplémentaires en ce qui concerne le domaine de la psychopathologie, et puis 100 heures supplémentaires concernant les différentes approches dans la psychothérapie, et ils doivent faire un stage de 2 mois. Les psychologues cliniciens, eux, sont à peu près bien traités. Bon, ils n'ont que 50 heures à fournir en formation dans le discernement des grandes pathologies psychiatriques, 50 heures par rapport à la psychopathologie et 50 heures. Donc, c'est pourquoi eux, ils auraient besoin de se former un peu plus aux différentes approches en psychothérapie. Bon. Et puis on aurait 2 mois de stage à faire en plus, comme si on n'en avait pas fait suffisamment. Mais l'intérêt quand même de ces. C'est quand même qu'on distingue les psychologues cliniciens des psychologues non cliniciens. Donc on reconnaît là quelque part la spécificité des psychologues cliniciens par rapport aux autres, puisque les autres ont un nombre d'heures beaucoup plus important à faire au niveau des différents thèmes de formation et qu'ils ont un stage de 5 mois à faire. Le psychanalyste, bizarrement, eux aussi ont des heures de formation à faire. Et évidemment, c'est là tout l'intérêt de ces propositions, c'est que les professionnels qui n'appartiennent à aucune de ces catégories, eux par contre, doivent fournir des heures de formation dans chacun des domaines, hein, dans chacun des thèmes qui sont cités, et à chaque fois 100 heures à faire, et 5 mois de stage. Donc on voit bien quand même que la visée de ce test, c'est surtout de protéger les personnes pouvant recourir à la psychothérapie de ces professionnels qui n'ont pas une formation initiale qui serait celle de la psychologie, de la psychiatrie ou de la psychologie. Donc ça, c'est quand même l'élément important. Alors après, ce qu'on peut dire, évidemment, comme le soulignait Jean-Baptiste, c'est que c'est très récent, hein, ce décret d'application, qu'il va sans doute faire débat, comme il y a eu déjà des débats avant même que le décret ne tombe. Ça va faire débat, et ça commence à faire débat, puisque les différents syndicats de psychologues ont commencé à réagir, donc on peut penser que ça va être un petit peu tumultueux dans les mois, peut-être les années à venir, et peut-être qu'on peut penser aussi que ça sera modifié, je ne sais pas. tout ça pour dire que c'est pas une question simple, mais que au moins on a avancé sur le fait que on n'est plus psychothérapeute de fait, mais que ça nécessite une formation et ça, voilà, ça demande à ce que les gens fassent cette démarche-là et qu'ils ne se proclament pas juste de même, mais bien qu'ils en réfèrent à des instances universitaires et voilà, qu'ils aient une démarche de formation validée et reconnue par d'autres que juste par eux-mêmes. Alors après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bon, même si l'usage du titre va être protégé, pour autant, le texte ne dit pas quelles sont les formes de pratique qui relèvent d'une psychothérapie et quelles sont celles qui ne relèvent pas d'une psychothérapie. Donc, la variété de l'offre de psychothérapie reste toujours aussi importante. Donc, il faut savoir qu'il y a différents courants de pensée et différentes pratiques, du coup, qui découlent de ces courants-là, qui peuvent fleurir, enfin, en tout cas, qui existent déjà et qui peuvent vous être proposés si vous cherchez un petit peu du côté de la psychothérapie. Alors, ces courants, on a essayé un petit peu de les regrouper. Ça va être des courants qui vont soit être centrés sur l'individu, donc c'est le cas de la psychothérapie psychanalytique, c'est le cas aussi de la Dasein analyse ou la psychothérapie existentielle. Je vous donne quelques exemples, c'est pas la liste exhaustive. D'autres courants qui vont être centrés plutôt sur le groupe, alors ça va être l'approche systémique par exemple, ou l'approche de la thérapie familiale. D'autres courants qui peuvent être centrés sur le corps, donc on a parlé de l'hypnose tout à l'heure, ou de la relaxation. D'autres enfin qui vont être centrés sur des médiations, donc ça c'est toutes les thérapies qui recourent à la médiation par exemple par les animaux, donc les petites thérapies, la peinture, le théâtre, enfin différentes médiations artistiques, la musique, musicothérapie, la danse. Ou aussi des courants qui peuvent être centrés plus sur les symptômes. Alors ça va être l'approche des thérapies cognitivo-comportementales, ou alors ce qu'on appelle le MDR, c'est la psychothérapie par mouvement des yeux. Vous m'avez fait traduire ça, mais alors, je ne saurais pas retraduire en anglais. C'est une méthode qui repose sur les mécanismes de la suggestion et de l'hypnose. Donc vous voyez que c'est très très varié, je vous ai donné vraiment quelques exemples, c'était surtout pour montrer à quel point c'était divers, il y avait une variété importante, et que c'était des approches qui pouvaient être centrées sur différents éléments de la personnalité et de l'individu. Et ce qu'on pourrait dire, quelque part, c'est que c'est des approches qui proposent toutes une conception de l'humain, il y a une théorie de l'humain, il y a une théorie de ce que c'est que l'humain, et qu'en fonction de cette théorie-là, on va développer une approche qui va répondre à ce qu'il nous semble important d'appréhender dans l'humain. Alors, si on pense que l'humain, il est à prendre en compte comme un individu qui évolue au sein d'un groupe, du coup, on va développer plutôt des thérapies, des formes de psychothérapie qui vont s'intéresser à la dynamique groupale, éventuellement à la dynamique familiale. Évidemment, si on considère que l'individu, c'est avant tout... Un être en lien avec, une psyché en rapport avec son corps, on va aussi centrer beaucoup plus l'approche sur les éléments corporels et le lien qu'on peut faire entre les vécus psychiques et ce qui se passe dans son corps. Donc, par exemple, les thérapies qui relèvent de la langue. Évidemment, si on considère que l'individu doit être rééduqué, si on considère un peu comme une machine, donc il faudrait changer des pièces, à ce moment-là, on va peut-être plus être orienté du côté d'une thérapie cognitivo-comportementale, puisque il s'agit de réduire le symptôme de façon assez automatique et systématisée, sans forcément prendre en compte la vie affective du sujet. Donc on voit bien que toutes ces formes de psychothérapie, elles sont centrées sur des points de vue sur l'humain, les théories de l'humain, et qu'en fonction de ça, les pratiques vont être très différentes. Donc, peut-être que la question qu'on pourrait poser autour de, finalement, face à cette variété des psychothérapies, c'est auprès de qui je peux m'adresser, ou auprès de qui je pourrais envoyer quelqu'un, peut-être que ça dépend aussi de quelle peut être la demande, ou quel peut être le besoin de la personne, en fonction de comment on se vit, ou de comment on se perçoit, comment on se sent, ben, on va être peut-être plus attiré vers des formes de psychothérapie que vers d'autres. Voilà, franchement.
C'est un des critères, il me semble, qui permet de discriminer